On raconte l'histoire d'un jeune garçon qui entreprit de construire un petit bateau en jouet. Il peignit soigneusement la coque et fabriqua de petites voiles. Ayant fini de l'assembler, le garçon déposa son jouet dans un ruisseau pour le faire naviguer. Au début, le bateau flotta sans problème. Mais ensuite, il se fit emporter par le courant. Le garçon partit à sa recherche, mais peine perdue. Le bateau avait disparu. Quelque temps plus tard, le garçon fut tout surpris de voir son jouet dans la vitrine d'un magasin. Il se précipita à l'intérieur et dit: C'est mon bateau dans la vitrine! Le gérant du magasin lui répondit: Je suis désolé, fiston, mais si tu le veux, il va falloir que tu l'achètes. Alors le garçon se mit à travailler dur pendant plusieurs semaines afin de gagner assez d'argent pour pouvoir racheter son bateau. En quittant le magasin avec son précieux bateau entre les mains, il lui chuchota: Petit bateau, tu m'appartiens de nouveau. Je t'ai créé, je t'ai recherché et je t'ai racheté. À bien des égards, la relation entre Jésus et son peuple ressemble à la relation entre ce petit garçon et son bateau. Le Fils de Dieu nous a créés, mais nous avons été emportés par le péché et nous étions perdus. Mais il ne nous a jamais oubliés. Il est venu sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et une fois qu'il nous a trouvés, il a payé le prix le plus fort pour nous racheter, le prix de sa propre mort. Ceci est la première leçon de la série Je crois en Jésus. Dans cette série, nous allons nous intéresser à la branche de la théologie que l'on appelle la christologie, c'est-à-dire la doctrine du Christ. Au fil de ces leçons, nous allons examiner les nombreuses vérités qui concernent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, des choses que les disciples de Jésus affirment depuis des milliers d'années. Nous avons intitulé cette première leçon Le Rédempteur, car nous allons parler de la manière dont Jésus rachète les pécheurs et assure le rétablissement final de la création pour notre plus grande joie et pour la gloire de son Père. Dans cette leçon sur Jésus, le Rédempteur, nous allons étudier la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en quatre parties. Tout d'abord, nous parlerons de son existence et de son plan dans l'éternité, avant la création du monde. Deuxièmement, nous parlerons de son activité pendant la création du monde. Troisièmement, nous parcourrons toute la période de la rédemption qui a commencé après la chute de l'homme dans le péché et qui s'étend jusqu'à aujourd'hui. Et quatrièmement, nous étudierons la consommation de l'histoire qui aura lieu au retour de Jésus. Commençons par l'éternité. La plupart du temps, lorsque les chrétiens pensent à Jésus, ils pensent à la vie qu'il a eue sur terre et à ce qu'il est en train d'accomplir au ciel maintenant. Parfois, on va s'intéresser à ce que la Bible dit sur ce que Jésus va faire dans l'avenir lorsqu'il reviendra. Et toutes ces choses sont très importantes. Mais le fait est que la deuxième personne de la Trinité, que nous connaissons sous le nom de Jésus-Christ, est notre Dieu de toute éternité. Donc, si l'on veut considérer Jésus d'un point de vue théologique, il vaut mieux, en fait, remonter bien plus haut dans l'histoire pour voir que notre rédemption, c'est quelque chose qu'il a préparé et auquel il a travaillé tout au long de l'histoire, et même avant que l'histoire ait un commencement. Il n'y a pas vraiment de consensus parmi les théologiens en ce qui concerne la nature de l'éternité avant la création de l'univers. Certains affirment que le temps lui-même ferait partie de la création, de sorte qu'il serait impossible de parler d'un temps qui précéderait l'acte créateur de Dieu. Dans cette leçon, nous allons donc assimiler l'éternité à l'existence de Dieu avant la création de l'univers. Dans l'éternité, seul Dieu existait, et il existait comme Trinité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Cette partie sur l'éternité sera abordée sous trois angles. D'abord, nous verrons ce que la Bible enseigne concernant la nature divine de Christ. Ensuite, nous réfléchirons à son rôle au sein de la Trinité. Et troisièmement, nous nous intéresserons à son conseil éternel. Commençons par la nature divine de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Souvenons-nous que la Bible n'a pas été écrite dans l'éternité. Elle a été rédigée dans le temps et au cours de l'histoire. Et c'est seulement à partir du Nouveau Testament que la Bible parle clairement de Jésus comme étant une personne distincte au sein de la Trinité. Malgré cela, l'Écriture affirme que Jésus a été Dieu depuis toute l'éternité. Donc, tout ce que la Bible enseigne dans le Nouveau Testament au sujet de la nature divine de Jésus était vrai même avant la création de l'univers. Et ces choses seront vraies pour toujours. Voici ce qui est dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. La nature divine de Jésus apparaît clairement dans le Nouveau Testament de plusieurs manières. D'abord, l'Écriture contient des affirmations explicites à ce sujet. Deuxièmement, il y a plusieurs endroits où le Nouveau Testament applique à Jésus des textes de l'Ancien Testament d'une manière qui révèle qu'il est Dieu. Et troisièmement, il y a des passages qui reconnaissent à Jésus des attributs divins. De ces trois types de preuves de la nature divine de Jésus, nous allons relever plusieurs exemples. Commençons par les affirmations explicites. Plusieurs passages enseignent explicitement la nature divine de Jésus en l'appelant directement Dieu. Par exemple, dans Jean chapitre 20, verset 28, l'apôtre Thomas appelle Jésus « mon Dieu ». Dans Tite chapitre 2, verset 13, Paul appelle Jésus « notre grand Dieu et sauveur, le Christ Jésus ». Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 1, Pierre appelle Jésus « notre Dieu et sauveur Jésus-Christ ». Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, Jean appelle Jésus « le Dieu véritable et la vie éternelle ». Mais le passage le plus connu qui attribue à Jésus une nature divine, c'est peut-être Jean chapitre 1, verset 1, où nous lisons ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ce verset dit précisément que la parole était Dieu, et qu'elle était Dieu au commencement, c'est-à-dire avant que l'univers fût créé. Et un peu plus loin, dans ce chapitre, au verset 14 à 18, Jean affirme clairement que cette parole dont il parle, c'est le Christ. Ainsi, Jean ne laisse aucun doute sur le fait que Jésus est Dieu. Il a toujours été Dieu par nature et le sera toujours pleinement. Deuxièmement, en plus d'affirmer explicitement que Jésus est Dieu, le Nouveau Testament révèle la nature divine de Jésus à travers la façon dont il cite et applique des passages de l'Ancien Testament qui font référence à Dieu. À plusieurs reprises, les auteurs du Nouveau Testament reconnaissent que Jésus est Dieu en l'assimilant au Seigneur de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle à son peuple sous le nom de Yahvé, qui est habituellement traduite en français par « l'Éternel », tandis que les Juifs disent « le Seigneur ». Il y a plusieurs endroits du Nouveau Testament où les auteurs se réfèrent à des passages qui concernent clairement Yahvé, le Seigneur, mais ils disent que ces passages parlent de Jésus. Par exemple, Marc chapitre 1, versets 2 et 3 est un passage qui se réfère à Malachie chapitre 3, verset 1 et à Ésaïe chapitre 40, verset 3, qui disent qu'un prophète ou un messager va ouvrir le chemin au Seigneur. Mais ensuite, Marc dit que ces prophéties se sont accomplies lorsque Jean-Baptiste a préparé le chemin à Jésus. Ainsi, Marc est en train de dire que Jésus est le Seigneur, Yahvé, à propos duquel Malachie et Ésaïe ont prophétisé. Paul fait un rapprochement similaire entre Jésus et Yahvé dans Philippiens chapitre 2, verset 11, où il mentionne la profession de foi de base des chrétiens. Jésus est Seigneur. Et dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, Jean assimile Jésus à la parole de Dieu par laquelle Dieu a créé l'univers au commencement. Il y a là une référence évidente à Genèse chapitre 1, verset 1, où Moïse dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Cette mention de Jésus comme acteur de la création montre qu'il est, en fait, Dieu lui-même. Troisièmement, en plus d'affirmations explicites et de références à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament affirme la nature divine de Jésus en lui reconnaissant des attributs divins, c'est-à-dire les attributs qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu. Par exemple, il est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, « Ce Fils, qui est le rayonnement de la gloire de Dieu, est l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante. » Dans ce passage, le Fils est assimilé à Dieu et à sa gloire de telle sorte que la nature divine du Fils est sous-entendue. De plus, le Fils exerce la puissance infinie de Dieu dans la création pour la soutenir. Il n'y a pas d'être limité qui puisse avoir un pouvoir illimité. Seul le Dieu infini en est capable. Par conséquent, le Fils de Dieu est Dieu lui-même. Et Jean, chapitre 1, versets 1 et 2, affirme la nature divine de Jésus d'une manière similaire, en disant « Au commencement était la parole, elle était au commencement avec Dieu. » Lorsque Jean dit que la parole existait au commencement, ce qu'il veut dire, c'est que le Fils existait depuis toute l'éternité, avant même que le monde soit créé, exactement comme ce que dit Genèse, chapitre 1, verset 1, où l'on voit que Dieu existait depuis toute l'éternité, avant la création. Autrement dit, le Fils n'a pas été créé. Il a existé avec Dieu le Père depuis toute l'éternité. Et puisqu'il n'y a que Dieu qui puisse avoir cet attribut qui consiste à exister éternellement, cela veut dire que le Fils est Dieu. Maintenant que nous avons vu la nature divine de Christ, nous pouvons passer à la question de la relation entre le Fils et les autres personnes de la Trinité.
La doctrine de la Trinité est essentielle à la foi chrétienne. D'une part, la Trinité représente une de ces doctrines qui nous montre que Dieu dépasse complètement notre aptitude à le comprendre. Cette doctrine nous apprend que Dieu est à la fois mystérieux et merveilleux, et donc elle nous incite à l'adorer. Mais d'autre part, cette doctrine distingue le christianisme de toute autre religion. Certaines religions voient en Dieu une seule personne, tandis que d'autres religions croient à l'existence de plusieurs dieux. Mais la doctrine biblique de la Trinité nous enseigne que Dieu est triple dans un sens et unique dans un autre sens. Et du point de vue de l'histoire, cette doctrine spécifiquement chrétienne a toujours été au cœur même de notre foi en Christ.
Le terme de Trinité n'apparaît pas dans la Bible, mais on l'utilise pour exprimer le concept biblique d'après lequel Dieu est trois personnes, mais une seule essence. Le terme de personne désigne une personnalité distincte et consciente d'elle-même. L'Écriture nous apprend que les trois personnes de Dieu sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le terme d'essence désigne la nature fondamentale de Dieu ou sa substance.
La doctrine chrétienne de la Trinité affirme qu'il y a un Dieu qui existe éternellement en tant que trois personnes unies, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il a fallu plusieurs siècles d'études approfondies des Écritures pour que les chrétiens aboutissent à cette compréhension de Dieu. À l'origine du développement de cette doctrine, il y avait principalement l'adoration rendue par l'Église primitive au Christ ressuscité et exalté. Les Écritures affirment clairement que Jésus est Dieu. Elles le font en disant que le Fils est de même nature que le Père. Comment donc les chrétiens arrivaient-ils à réconcilier l'adoration vouée au Christ avec l'unicité de Dieu? La clé a consisté à faire une distinction entre la personne et la nature. L'enseignement de l'Écriture a fini par conduire les chrétiens à dire que Dieu le Père et Dieu le Fils étaient un dans leur être, mais distincts en tant que personne. Pour résumer, il y a un seul Dieu qui existe éternellement en tant que trois personnes unies dans leur être, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Traditionnellement, les théologiens ont décrit la Trinité sous deux angles. D'une part, ils ont parlé de la relation ontologique entre les membres de la Trinité. Et d'autre part, ils ont parlé de leur relation économique. Nous allons examiner brièvement ces deux notions, à commencer par la relation ontologique entre les personnes de la Trinité. Le mot ontologique veut dire « relatif à l'être ». Donc, lorsque l'on considère la relation ontologique entre les personnes de la Trinité, cela veut dire que l'on s'intéresse à la façon dont elles existent ensemble,
en ayant part à la même essence ou nature divine. Puisque les trois personnes de Dieu ont une seule et même essence divine, elles possèdent donc les mêmes attributs divins. Par exemple, elles sont toutes les trois infinies, éternelles et immuables. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, l'apôtre Paul évoque cet aspect de la Trinité de la manière suivante. Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ce passage dit beaucoup de choses concernant Jésus. Mais nous voulons surtout nous intéresser à l'affirmation « lui dont la condition était celle de Dieu ». Par cette phrase, Paul est en train de dire explicitement que le Fils est de même nature ou essence divine que Dieu le Père. Et il y a d'autres passages qui disent la même chose du Saint-Esprit. Tous les trois sont un seul être divin. Voyez ce que dit Jésus dans Jean, chapitre 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Les incroyants qui ont entendu Jésus prononcer une telle affirmation ont bien compris qu'il se disait Dieu, si bien qu'ils ont essayé de le lapider pour cause de blasphème. Nous avons donc pu examiner ce que la Bible disait sur la Trinité du point de vue ontologique. Maintenant, voyons ce qu'elle dit sur la relation économique entre les personnes de la Trinité. Le mot économique signifie « relatif à l'administration d'un foyer ». Donc, quand on parle des relations économiques au sein de la Trinité, on s'intéresse à la façon dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit interagissent les uns avec les autres en tant que personnes distinctes. On a déjà pu voir que sous l'angle ontologique, le Fils est de même essence divine que le Père et le Saint-Esprit. Mais d'un point de vue de leur relation économique, le Fils se soumet à la volonté du Père et a autorité sur le Saint-Esprit. Voici ce que dit Jésus dans Jean, chapitre 6, verset 38. « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et voici ce qu'il dit dans Jean, chapitre 8, versets 28 et 29. « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc, du point de vue économique, au sein de la Trinité, le Fils se soumet toujours à l'autorité et à la volonté du Père. Et tout comme le Père a autorité sur le Père et le Fils ont tous deux autorité sur le Saint-Esprit. Le Fils évoque l'autorité qu'il a sur le Saint-Esprit dans Jean chapitre 15, verset 26, où il dit ceci. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi. Tout comme le Père a l'autorité d'envoyer le Fils a l'autorité d'envoyer l'Esprit. Évidemment, il n'y a jamais de conflit entre les personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours d'accord. En même temps, au niveau relationnel ou économique, il y a un ordre hiérarchique. Le Père a la plus haute autorité, puis il y a le Fils, puis il y a le Saint-Esprit.
Il nous est impossible de pleinement comprendre la nature de la Trinité ni la relation qui existe entre les personnes de la Trinité. Par la foi, nous savons que ce que dit l'Écriture est vrai. Mais il nous faut bien reconnaître que de nombreux aspects de la Trinité dépassent notre compréhension. Il y a néanmoins un vrai réconfort et un vrai encouragement à savoir que tous les membres de la Trinité œuvrent ensemble pour notre salut. Le Père nous pardonne sur la base de l'expiation faite par le Fils. Et le Père et le Fils déversent l'Esprit dans notre vie pour nous régénérer et pour nous renouveler, dans l'attente du retour du Fils qui viendra parachever notre salut.
Nous avons parlé de la personne et de l'œuvre de Jésus dans l'éternité en nous intéressant à sa nature divine, puis à la Trinité. Nous allons maintenant parler de son conseil éternel. Le terme théologique de conseil éternel, parfois appelé décret éternel, désigne le plan de Dieu pour l'univers fixé avant la création. Le conseil éternel de Dieu est mentionné dans des passages comme Actes, chapitre 2, verset 23, Romains, chapitre 8, versets 28 à 30, et 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Les différentes traditions théologiques sont susceptibles d'avoir une vision différente de la nature et de la portée du plan de Dieu. Certains chrétiens croient que le plan éternel de Dieu concerne les moindres détails de l'histoire. D'autres pensent que Dieu n'a pas tout fixé, mais seulement certaines choses. Mais nous affirmons tous que l'œuvre de Christ est au centre du plan de Dieu, que Dieu a décrété le salut en lui et que Christ n'échouera pas. Voici ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 11. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Ce que Dieu a fait à travers Christ n'est pas arrivé par accident. Il n'a pas improvisé suite à un problème inattendu. Tout cela avait été fixé par le décret éternel de Dieu. Et quand on pense au conseil éternel de Dieu relatif à Christ, il peut être utile d'en distinguer deux aspects, la préscience et le dessein. Dans Isaïe chapitre 46, verset 10, ces deux aspects du conseil éternel de Dieu apparaissent clairement. Voici ce qui est dit dans ce passage. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Concernant sa préscience, Dieu dit que dès le commencement, c'est-à-dire avant de créer le monde, il a déjà connaissance de ce qui n'est pas encore accompli. Et concernant son dessein ou son projet, il dit « Mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire ». Examinons ces deux notions un peu plus en détail. Tout d'abord, on pourrait définir le terme de préscience comme désignant la connaissance que Dieu a, préalablement à la création, d'événements qui vont se produire au cours de l'histoire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont omniscients, et leur connaissance couvre même l'avenir. Cette idée apparaît non seulement dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, mais aussi dans d'autres passages comme Ésaïe chapitre 42, verset 9, et chapitre 45, verset 11 à 13, et Actes chapitre 15, verset 17 et 18. Ensuite, il y a plusieurs façons de décrire le dessein de Dieu pour l'univers qu'il a créé. Dans cette leçon, nous allons le résumer par l'affirmation suivante. Dieu a créé l'univers dans le but de manifester et de magnifier sa gloire à travers son royaume en Christ. Ce dessein apparaît tout au long de l'Écriture, notamment dans des passages comme Psaume 145, versets 1 à 21, 1 Timothée chapitre 1, verset 17, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 13, 1 Pierre chapitre 1, verset 20, jusqu'au chapitre 2, verset 9, et Apocalypse chapitre 1, verset 5 et 6. Ces derniers siècles, certains théologiens ont trouvé utile de décrire le décret éternel de Dieu relatif à son royaume glorieux sous l'expression « alliance de rédemption ». L'Écriture nous apprend qu'avant la création du monde, les personnes de la Trinité ont conclu un accord solennel dans le but de réaliser la rédemption et de l'appliquer à la création déchue. Le Fils, notamment, a promis de s'incarner et de mourir afin de racheter l'humanité déchue des conséquences du péché. Et le Père a promis d'agréer le sacrifice du Fils comme prix de la rédemption des pécheurs. Certains théologiens ajoutent que le Saint-Esprit a aussi promis d'appliquer le salut aux pécheurs rachetés.
C'était un accord en vertu duquel le Père planifiait l'œuvre du salut au profit de son peuple. Il décidait aussi de donner au Fils un corps physique dans lequel le Fils allait s'incarner pour venir sur terre. et le Fils accepte de venir sur cette terre, d'offrir sa vie sur la croix. Une vie parfaite, d'offrir cette vie parfaite sur la croix et de se substituer au peuple de Dieu. Cette alliance de rédemption impliquait également l'envoi du Saint-Esprit qui prend l'œuvre de Christ et l'applique au peuple de Dieu.
L'alliance de rédemption est une notion importante pour nous parce qu'elle rend compte de ce que Jésus a déjà fait par son incarnation et de ce qu'il continue de faire. Les promesses contenues dans l'alliance de rédemption sont mentionnées dans des passages comme Psaume 110 et Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. Elles sont sous-entendues dans d'autres passages comme dans 1 Pierre chapitre 1, verset 20 et dans Apocalypse chapitre 13, verset 8. Prenons comme exemple ce que dit Jésus dans Jean chapitre 6, versets 38 à 40. « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. »
La rédemption découle d'un dessein éternel qui a été conçu en Dieu avant la création du monde. Il y a là quelque chose de mystérieux qui nous échappera toujours. Dieu est infini, et donc évidemment, il y a des choses qui nous sont cachées, et Dieu ne nous les a pas révélées. Mais nous voulons quand même comprendre tout ce que Dieu nous a révélé à ce sujet. Et il y a un certain nombre de choses dans l'Écriture qui nous montrent qu'une alliance a été faite en Dieu, au sein de la Trinité, dans l'éternité, dont le but était la manifestation de sa gloire. Des êtres différents de Dieu allaient trouver leur joie dans sa gloire, et ce serait une joie perpétuelle. Et d'après l'Écriture, Dieu a voulu réaliser cela à travers un dessein rédempteur, en prenant des êtres humains pécheurs, qui méritaient le châtiment, et en les rachetant. Et pour autant qu'on puisse l'affirmer d'après l'Écriture, il y a un accord solennel qui a été conclu avant la fondation du monde, avant la création du monde. Une alliance d'après laquelle le Père se choisit un peuple. Le Fils vient mourir et racheter ce peuple. Et le Saint-Esprit attire ce peuple en lui retirant la corruption du péché, de sorte qu'il se repente et se soumette à Christ.
Le conseil éternel de Dieu devrait être, pour tous les croyants, une source incroyable de réconfort. Avant même de créer l'univers, Dieu a conçu sa création dans le but de manifester sa gloire et d'en faire un lieu propice à la vie de l'humanité, sous son règne bienveillant. Et en raison de sa prescience, rien ne le surprend. Dieu n'a pas été choqué par la chute de l'homme dans le péché. Et notre salut ne représente pas une solution de dernière minute qu'il aurait inventée pour remédier à un problème inattendu. Au contraire, tout arrive conformément à son plan. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ce même Dieu, l'architecte et le créateur de l'univers, s'est incarné en la personne de Jésus de Nazareth. Il est entré dans sa création afin de la restaurer et de nous restaurer conformément à son dessein éternel.
Maintenant que nous avons parlé du Fils dans l'éternité, nous allons nous intéresser à la période initiale de la création. Dans le cadre de cette leçon, nous allons définir la période initiale de la création comme étant la période qui débute avec la semaine de création et qui s'achève avec la chute de l'homme dans le péché et son exclusion du Jardin d'Éden. Ce sont des événements auxquels la Bible fait fréquemment allusion. Mais c'est dans le livre de la Genèse, chapitres 1 à 3, que ces événements nous sont principalement rapportés. Nous allons examiner l'œuvre du Fils pendant la période de la création en deux parties. D'abord, nous allons nous intéresser à la semaine de création, lorsque Dieu a fait apparaître l'univers. Ensuite, nous parlerons de la chute de l'homme dans le péché. Commençons par la semaine de création. Quand les chrétiens parlent de Dieu qui crée le monde, la personne que nous nous représentons habituellement dans notre esprit, c'est celle de Dieu le Père. Mais d'après l'Écriture, le Fils était auprès du Père au moment de la création, et le Père a créé le monde par le Fils. Ces choses nous sont enseignées dans des passages comme dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3 et Hébreux chapitre 1, verset 2.
Quand on pense à Dieu le Fils en tant que créateur de l'univers, le passage biblique qui nous vient à l'esprit, c'est Colossiens chapitre 1, qui est un passage très riche et qui nous dit que toutes choses ont été créées par lui et que toutes choses ont été créées pour lui et que toutes choses subsistent en lui. Il y a une dimension très pratique. Ce que cela veut dire, c'est qu'on peut être sûr que celui qui a conçu et qui a façonné sa création et qui la soutient par un effet conjoint de la loi naturelle de sa volonté divine, celui-là, à notre niveau, sait pertinemment ce que nous vivons en tant qu'élément de sa création et aussi en ayant été recréé par son esprit. C'est donc une vraie bénédiction que d'être connecté au dessein originel de Dieu et à sa provision quotidienne.
Regardez en effet ce que dit Colossiens chapitre 1 verset 16 au sujet de la participation du Fils à la création du monde. « Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, tout a été créé par lui et pour lui. » Dans ce passage, Paul dit explicitement que la création a été faite par le Fils.
Au moment de la création, le Fils existait en tant que Logos, la parole véritable. Donc, dans Genèse, chapitre 1, Dieu dit « que la lumière soit ». Dieu dit « que les eaux s'amassent en un endroit et que la terre sèche apparaisse ». Ensuite, dans l'évangile de Jean, il dit que « la parole a été faite chair ». C'est cela qui nous permet de comprendre notre univers. Cette compréhension vient du Créateur à la création, de Dieu aux êtres humains. Pourquoi ? Parce que ce qui nous permet d'appréhender le monde, c'est le principe conducteur de Dieu. Et ce n'est pas un principe imaginaire, c'est la vérité, la parole, le logos. Ainsi, l'univers entier peut être appréhendé dans la mesure où il est gouverné par le logos de Dieu.
Vous savez, quand on lit le Nouveau Testament, on découvre tellement de choses surprenantes, tellement de choses qui éclairent notre lecture de l'Ancien Testament. Une des choses qu'on découvre, par exemple, dans le prologue de l'Évangile de Jean, c'est que Christ est présent depuis le commencement. Christ est présent dans tous les versets de l'Ancien Testament. On remonte jusqu'à la création du monde, et Jean nous dit que c'est Christ, la parole, le Logos de Dieu, qui était l'instrument de la création, par lequel Dieu a créé les mondes. Et ensuite, on lit un passage comme celui de Colossiens, et là, Paul nous dit que le Fils a créé le monde, qu'il a tout créé. Et dans la Genèse, il est dit que Dieu a parlé pour créer. C'est une création verbale, en quelque sorte. C'est une parole qu'il a prononcée. Et on est amené à comprendre que cette parole, c'est Christ.
Ce qui est intéressant, c'est que le récit biblique de la création ne commence pas par nous expliquer ce qui se passait avant la création des cieux et de la terre. Le récit se concentre plutôt sur la façon dont Dieu a mis de l'ordre dans l'univers et l'a rempli, selon son bon plaisir, d'une façon qui était conforme à ses projets pour l'univers. Genèse, chapitre 1, verset 1, constitue le titre de ce récit de la création et nous dit que Dieu est le Créateur. Ensuite, Genèse, chapitre 2, verset 2, nous parle de la condition primitive du monde. Voici ce qui est dit. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Avant que Dieu mette de l'ordre dans l'univers et le remplisse, le monde était informe, c'est-à-dire désordonné, et il était vide, c'est-à-dire qu'il n'était pas habité. Dans cette situation, le monde ne pouvait pas être le lieu du royaume glorieux de Dieu. Donc, il a passé 6 jours à remplir sa création et à y mettre de l'ordre. Et la façon dont il a fait cela révèle quelques aspects fondamentaux de son dessein éternel pour le monde. Pendant les 3 premiers jours de la création, Dieu a structuré le monde et lui a donné sa forme. Par la puissance de sa parole, il a séparé la lumière des ténèbres, le ciel de la mer et la terre sèche de l'eau. Et il a créé la végétation pour qu'elle produise de la nourriture aux créatures qu'il formerait ensuite. Pendant les 3 jours suivants de la création, Dieu a rempli le monde qui était vide afin que sa création soit convenablement organisée et gouvernée. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les saisons. Et il a voulu que le soleil règne sur le jour et la lune sur la nuit. Ensuite, il a créé les poissons et les autres êtres marins pour qu'ils habitent les eaux. Et les oiseaux pour qu'ils habitent les airs. Et tous les animaux terrestres pour qu'ils occupent la terre sèche. Et ensuite, Il a créé l'humanité à la fois pour qu'elle remplisse la terre et pour qu'elle règne sur toutes les créatures de la mer, des airs et de la terre. Écoutez ce que dit Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28, au sujet de la création de l'humanité. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. »
L'Écriture et le livre de la Genèse en particulier décrit en des termes très riches la relation originelle de l'humanité avec Dieu. Avant tout, les êtres humains représentent le couronnement absolu de la création de Dieu. À la fin des six jours, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Et Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Homme et femme, il les créa. Donc les êtres humains ont un genre de relation à Dieu qui constitue le point culminant de tout ce que Dieu a fait. Ils sont le chef-d'œuvre de Dieu qui a voulu mettre son image, sa ressemblance dans sa création. Et donc au deuxième chapitre de la Genèse, le texte décrit cette même réalité en disant que Dieu a formé Adam à partir de la poussière du sol et qu'il lui a insufflé le souffle de vie, c'est-à-dire que Dieu donne à Adam de prendre part à sa vie divine. Les termes suivants décrivent donc très bien la relation originelle de l'humanité avec Dieu. Les êtres humains étaient censés vivre en tant qu'amis de Dieu, enfants de Dieu, partenaires de Dieu dans la création, créés pour servir Dieu, mais pas seulement pour le servir. Avant tout, pour connaître Dieu et pour l'aimer.
À la fin du sixième jour de la création, Dieu avait créé l'univers pour qu'il soit son royaume, et il avait mandaté l'humanité pour qu'elle gouverne la terre d'une façon qui lui rende gloire. Gardons cela à l'esprit et lisons de nouveau Colossiens chapitre 1, verset 16, où l'apôtre Paul parle du rôle du Fils dans la création. « Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. » Notez bien que dans ce passage, Paul mentionne les trônes, les souverainetés, les principautés et les pouvoirs. Dans la Bible, la création ne révèle pas seulement de l'existence. C'est aussi une affaire de pouvoir politique. Le monde existe dans le but de devenir le royaume de Dieu soumis à l'autorité de son Fils. Ce lien, on le voit aussi dans les paroles tirées de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 2. Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Dans ce passage, l'auteur de l'Épître aux Hébreux relie le fait que Dieu le Fils ait pris part à l'acte créateur, avec le fait qu'il soit l'héritier de toutes choses, c'est-à-dire qu'il soit le roi auquel sont destinées la propriété et le règne de toute la création. En fait, tout le chapitre est marqué par ce thème. La Bible explique clairement que le but de la création est d'être le royaume de Dieu. Et le Nouveau Testament nous apprend que ce royaume est appelé à être gouverné par le Fils de Dieu, par qui et pour qui la création a été faite. On pourrait même dire que la participation du Fils à l'acte créateur était une expression de sa royauté et de son autorité. Il a autorité sur la création car c'est lui qui l'a créée. Et par conséquent, toute chose créée se trouve dans l'obligation de se soumettre humblement et volontairement à son roi, Dieu le Fils.
C'est un élément curieux de la foi chrétienne que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne soit pas seulement notre Rédempteur, mais qu'il ait aussi eu un rôle essentiel dans la création de l'univers. Notre Seigneur et Sauveur est le Rédempteur, mais plus exactement, il est le Créateur et le Rédempteur, ce qui a des implications importantes pour nous. Ça nous montre tout d'abord combien notre Sauveur est grand. Il est le Créateur de toutes choses. C'est impressionnant d'y penser, non ? Ça nous empêche aussi de nous imaginer que le Fils serait d'une façon ou d'une autre inférieur au Père. alors qu'il a en fait pleinement pris part à la création de cet univers incroyable et merveilleux que nous habitons. Ça nous montre aussi, je pense, que la sollicitude de Jésus-Christ s'étend non seulement à son Église, mais aussi à toute la création et à toutes les créatures, et que la rédemption dont nous attendons le plein accomplissement par Christ à la fin des temps inclura la rédemption de la création qui soupire elle aussi. Enfin, je crois que c'est aussi une façon de se souvenir que ceux qui suivent Jésus-Christ devraient se préoccuper de ce qui le préoccupe, et par conséquent, se préoccuper de ce monde et de ses habitants autant que celui qui les a créés.
Nous avons donc réfléchi à l'œuvre du Fils pendant la création, d'abord dans le cadre de la semaine de création. Maintenant, nous allons parler de la chute de l'homme dans le péché. La chute de l'homme dans le péché est une histoire triste mais bien connue. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, Dieu crée nos premiers parents, Adam et Ève, et il les place dans le magnifique jardin d'Éden. Leur mission consistait à cultiver le jardin et à produire une descendance suffisamment nombreuse pour que la race humaine élargisse le jardin jusqu'à ce qu'il couvre la terre entière, de sorte que le monde soit rendu digne d'être la demeure de Dieu. Mais dans Genèse, chapitre 3, Satan prend la forme d'un serpent et incite Ève à manger le fruit interdit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Une fois qu'elle en a mangé, elle en donne à Adam, qui en mange à son tour. Par cet acte, l'humanité s'est montrée déloyale à Dieu pour la première fois. Adam et Ève se sont fiés aux paroles du serpent et se sont montrés incrédules vis-à-vis de la provision de Dieu et de son commandement. Dans Genèse, chapitre 3, Dieu répond à ce péché en maudissant Adam, Ève et le serpent. Les jugements qu'il prononce résument les conséquences de la désobéissance de l'humanité et ajournent la réalisation du dessein de Dieu pour la création. Mais quel était le rôle de Dieu le Fils dans tout cela? On peut décrire son rôle de façon sommaire en disant qu'il a participé avec le Père et le Saint-Esprit au fait de maudire l'humanité après le premier péché, et en disant qu'il était le Rédempteur promis qui viendrait un jour délivrer l'humanité de cette même malédiction. Nous allons examiner l'œuvre de Dieu le Fils au moment de la chute de l'homme sous trois angles. D'abord, nous allons parler des conséquences personnelles de la chute. Ensuite, nous verrons ses conséquences universelles. Et troisièmement, nous parlerons brièvement de l'espérance qui a été présentée à l'humanité après la chute. Commençons par les conséquences personnelles de la chute.
D'après Romains, chapitre 5, une des conséquences de la chute de l'homme dans le péché, c'est que par un homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde et la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché, et le sens ici, c'est que tous ont péché en lui. Adam a représenté toute l'humanité, et quand il a péché, sa culpabilité s'est étendue à toute l'humanité, et aussi sa nature corrompue. On peut l'imaginer comme ça, quand Dieu a créé Adam, il a mis en lui une petite fiole de poison, ce n'est pas vraiment ça, mais imaginons, et il a dit à Adam, « Si jamais tu me désobéis, cette petite fiole va se casser. » Eh bien, Adam a désobéi à Dieu, et la fiole s'est cassée, et le poison a infecté son esprit, et il s'est mis à ne pas penser correctement. Et il a infecté son cœur, et il s'est mis à ne pas aimer les bonnes choses, et il a infecté sa volonté, et il s'est mis à ne pas faire les bons choix. Et ensuite, quand Adam a eu des enfants, cette nature corrompue s'est transmise à ses enfants, de sorte que toute la race humaine est apparue dans cet état de corruption et de rébellion contre Dieu.
Les conséquences personnelles de la chute de l'homme dans le péché sont nombreuses. Mais pour ce qui concerne cette leçon, nous allons nous concentrer sur quatre idées, à commencer par celle d'une relation brisée entre Dieu et les êtres humains.
La chute de l'humanité dans le péché, à la base, c'est une rébellion contre Dieu. L'homme a désobéi à la loi morale de Dieu, qui reflète son caractère. Et cette rébellion a conduit à une séparation tragique à tous les niveaux. Avant tout, une séparation d'avec Dieu. Nous, sa création, créée à son image, destinée à le glorifier, nous ne le faisons pas. Nous sommes invariablement privés de la gloire de Dieu. Nous nous sommes rebellés contre lui, et il a intentionnellement maudit cette création, et il a instauré une séparation entre sa création et lui. Les hommes font donc l'expérience de cette séparation en étant coupés de ce qui était la source ultime de leur sécurité, de leur dignité et de leur identité. Nous sommes la création de Dieu, mais nous sommes séparés de Dieu. Nous nous sommes aussi séparés les uns des autres. Les êtres humains étaient censés trouver leur joie, leur identité, leur satisfaction en Dieu. Mais quand on ne le fait pas, on recherche ces choses dans le monde. Et ainsi, les personnes que nous côtoyons, au lieu de faire l'objet de notre affection et de notre amour, deviennent des concurrents par rapport à ces choses que nous recherchons pour y fonder notre identité. Et donc, nous nous séparons les uns des autres.
Dieu avait conçu ce monde pour en faire un lieu où il habiterait avec ses créatures. Mais le péché d'Adam et Ève les a séparés de Dieu. Leur relation avec lui a été brisée. Leur désobéissance a provoqué en eux un sentiment de honte et ils ont perdu le contentement et la confiance qu'ils avaient en présence de Dieu. Donc, au lieu de parcourir le jardin avec Dieu et de parler avec lui, ils se sont cachés de lui. Et cette relation n'a pas seulement été brisée en raison de la honte des hommes. Dieu lui-même les a aussi rejetés et chassés du jardin d'Éden. Par conséquent, un des besoins les plus fondamentaux de l'humanité, c'est que cette relation soit rétablie. De plus, la relation brisée entre l'humanité et Dieu a entraîné une relation brisée entre Adam et Ève. Cette idée apparaît clairement à travers le fait que leur nudité leur fait soudainement honte et qu'ils se revêtent alors de feuilles de figuier. Elle apparaît aussi au moment où Dieu maudit l'humanité dans Genèse chapitre 3 verset 16, où l'on apprend que le péché est la source des conflits dans le mariage. Donc, l'humanité a aussi besoin d'une rédemption qui va rétablir ses relations humaines. Parmi les conséquences personnelles de la chute, il y a aussi le fait que l'humanité supporte la culpabilité due au péché d'Adam. Voyez ce que dit Paul à ce sujet dans Romains chapitre 5, verset 18. « Par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. » Ce que Paul dit, c'est que l'acte unique de désobéissance commis par Adam a condamné toute l'humanité. Autrement dit, Dieu impute le péché d'Adam à tous les êtres humains déchus, de sorte que nous sommes tous coupables de cette offense originelle. Ça s'est passé comme ça, parce qu'Adam était le représentant fédéral de l'humanité. Il ne représentait pas que lui-même, mais aussi sa femme et tous les êtres humains qui sont issus de lui par engendrement naturel. Le résultat, c'est que nous avons besoin d'être rachetés et délivrés de cette culpabilité et du châtiment éternel qu'elle implique. Parmi les conséquences personnelles de la chute, nous pouvons aussi mentionner troisièmement la dépravation. La dépravation est un terme théologique qui désigne la corruption de la nature humaine par le péché. Les différentes traditions théologiques ont parfois un point de vue différent en ce qui concerne l'étendue de cette dépravation. Mais tous les chrétiens évangéliques sont d'accord sur le fait qu'elle nous empêche de gagner la faveur de Dieu. Il y a beaucoup de passages où la Bible parle de la dépravation de la nature humaine, comme dans Romains chapitre 3, versets 9 à 18. Voyez par exemple ce qui est dit dans Romains chapitre 3, versets 10 à 12. « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. » Ensemble, ils se sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Dans ce passage, Paul associe plusieurs citations de l'Ancien Testament en vue de faire ressortir l'enseignement général de l'Écriture sur la dépravation des hommes. Dans Romains chapitre 3, Paul dit que notre comportement est dépravé. Personne n'est juste, personne ne fait le bien. Mais notre intelligence aussi est dépravée. « Nul n'est intelligent, dit-il. Et notre volonté aussi a été touchée, puisque personne ne cherche Dieu. » En fait, Paul va jusqu'à dire que la nature humaine a perdu toute valeur aux yeux de notre Dieu qui est saint. Nous ne sommes pas dignes de recevoir sa bénédiction, et il n'y a rien que nous puissions faire pour nous racheter nous-mêmes. Nous avons besoin d'être secourus.
Vous savez, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup d'optimisme dans le monde, surtout en Occident. C'était dû au progrès de la science, au développement et à la généralisation de l'éducation, à toutes les découvertes récentes, technologiques, scientifiques, etc. Et Et donc il y avait chez les philosophes et les sociologues, et même chez les théologiens libéraux, une espèce d'aura optimiste, l'idée selon laquelle le XXe siècle serait caractérisé par la paix et qu'il n'y aurait plus de guerre. Le XXe siècle serait celui du règne de la raison humaine. Et quand on est raisonnable ou rationnel, on ne se fait pas la guerre. Il y avait donc une formidable attente au sujet de la paix qui allait caractériser ce nouveau siècle. Mais le problème par rapport à ça, et c'était précisément le problème du marxisme, c'est qu'on avait une anthropologie optimiste qui aboutissait quand même à des désastres parce qu'elle n'intégrait pas la doctrine du péché. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la Première Guerre mondiale. On a eu la Révolution bolchévique. Ensuite, on a eu l'Holocauste, la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, le nazisme, et la liste continue. Et donc, pour résumer, au cours du XXe siècle, plus de 112 millions de personnes sont mortes en raison de la guerre. Je ne parle que de la guerre, pertes civiles et militaires, pour autant qu'on puisse le calculer. Ça représente 4 fois plus de victimes qu'au cours des 4 siècles précédents. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré l'amélioration de la condition sociale, toute la connaissance, toutes les découvertes scientifiques, le progrès de la civilisation, il y a quelque chose qui ne va pas fondamentalement dans la nature humaine. Et c'est ce que nous, les chrétiens, nous appelons le péché. Ce n'est pas un terme très populaire dans les médias ou dans le monde académique. Et pourtant, comme le dit Reinhold Niebuhr, la doctrine chrétienne du péché est la moins populaire de toutes les doctrines, mais celle qui est de loin la mieux attestée par l'expérience.
Parmi les conséquences personnelles de la chute, il y a aussi, quatrièmement, le fait que l'humanité a connu la souffrance, la douleur et la mort. Avant la chute de l'homme dans le péché, la vie humaine était parfaite et réjouissante. Les êtres humains ne connaissaient pas la douleur, ni l'épreuve, ni la maladie, ni la mort. Mais après le péché d'Adam et Ève, Dieu les a maudits ainsi que leur descendance naturelle.
Suite à la chute, Dieu a jugé l'homme et la femme, et en fait toute la création. Du coup, par exemple, le travail est devenu pénible, alors que c'était quelque chose qu'Adam et Ève faisaient avec joie avant la chute. Les êtres humains ont maintenant une relation ambivalente avec le travail. Ils aiment travailler et ils détestent travailler en même temps. La relation entre l'homme et la femme a aussi été détériorée et pervertie. L'enfantement aussi, qui était un don de Dieu, destiné à reproduire l'image de Dieu, est devenu un processus pénible et douloureux. En fin de compte, Adam et Ève ont pu continuer de profiter de ces bonnes choses que Dieu leur avait données. Mais en même temps, ces choses ont été corrompues et perverties jusqu'à un certain point, et ainsi elles ont perdu de leur effet bénéfique.
Les malédictions que Dieu a prononcées contre l'humanité apparaissent dans Genèse, chapitre 3, versets 16 à 19, où il dit ceci. Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est avec peine que tu accoucheras. » Il dit à l'homme, « Le sol sera maudit à cause de toi. » C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol. Ces malédictions n'ont pas seulement soumis l'humanité à la douleur et à diverses souffrances, mais elles ont aussi empêché les hommes de pleinement accomplir les tâches que Dieu leur avait assignées. L'humanité a commencé à rencontrer des difficultés dans sa mission, qui consistait à se multiplier et à remplir le monde, et dans celle qui consistait à travailler.